Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi donc, une émission préparée par Mélanie Chalandon mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Suite de notre série consacrée aux langues, après avoir parlé de la disparition des langues, après avoir fait une petite géopolitique des alphabets du côté de l'Asie centrale, place à la langue française en cette journée internationale de la francophonie. Direction l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, à qui profite le français? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Notre langue française, elle a un avenir. Ça n'est pas simplement un patrimoine à protéger. Et cet avenir se joue, pour beaucoup, en Afrique. Son avenir, son rayonnement, son attractivité n'appartient plus à la France. Et la francophonie, c'est un corps vivant, un corps par-delà nos frontières.
90% des Sénégalais, voire 99% des Sénégalais, comprennent la langue de Côte-Barma, c'est-à-dire le Wolof.
Ah, moi, je ne parle que le Wolof. Le français ? Ah non, j'y comprends rien.
La langue de Wolof est beaucoup plus accessible et puis, bon, c'est beaucoup plus facile à manier.
Le Wolof, ce n'est pas difficile. Mais le français, c'est compliqué un peu. Moi, je les comprends toutes les langues, en français, en wolof.
Les élèves viennent à l'école avec leur langue. Ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que le français. Ils ne savent même pas lire une lettre en français.
On a coutume de dire que l'avenir de la langue française se trouve à l'extérieur de nos frontières nationales et en particulier en Afrique. On l'entendait là avec un extrait du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Et pour cause, selon les projections, d'ici 2050, ce sont près de 595 millions de locuteurs francophones qui pourraient se trouver sur le continent africain. C'est-à-dire 85% de la population francophone totale de cette période de 2050. Mais quelle est la place du français dans les sociétés africaines aujourd'hui? Est-il bien parlé, bien enseigné? Favorise-t-il réellement l'alphabétisation ou peut-il au contraire constituer un obstacle? Si la francophonie est généralement présentée comme un atout pour les populations africaines, elle peut être perçue aussi comme un outil de domination par lequel s'opère l'exclusion sociale et culturelle. En effet, au Sénégal, au Mali ou encore au Burkina Faso, le français est souvent un incontournable de l'ascension sociale. Alors comment s'opère cette exclusion par la langue française en Afrique de l'Ouest? Comment rassembler les conditions d'une meilleure cohabitation, peut-être plus équilibrée, plus juste entre le français et les langues nationales? Comment doit se faire la promotion du Bambara, du Wolof ou encore du Peul à l'école? Quelles sont les expériences qui ont été menées en la matière et avec quels résultats? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. Marie-Ève Humery, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, sociologue. À vos côtés, Cécile Canu, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes sociolinguiste, professeur en sciences du langage à l'Université Paris-Descartes. Je vais commencer avec vous. Quand on parle de francophonie, Cécile Canu, on convoque immanquablement le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui avait proposé cette très belle définition de la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Il avait théorisé, au fond, un idéal de francophonie parfaitement respectueuse de toutes les identités, de toutes les cultures du monde. Mais derrière cet idéal, Cécile Canu, il y a quand même une réalité qui est peut-être moins reluisante, avec une langue qui reste le véhicule par lequel peut s'opérer, je le disais, et se transmettre aussi des inégalités sociales, culturelles et politiques. C'est aussi ça derrière la francophonie.
Oui, bien sûr. En fait, il faudrait, pour commencer, considérer deux aspects de cette soi-disant francophonie, puisqu'en fait elle est plurielle, il y a au moins deux aspects qui sont déjà d'ailleurs dans la définition même sur le site de la francophonie, ce qu'ils appellent la francophonie avec un petit F et la francophonie avec un grand F. Alors vous citez Senghor, qui était effectivement au départ celui, avec d'autres chefs d'État aux indépendances, qui a on le dit tout le temps comme une sorte de mythe finalement, décider de tisser des liens et de garder des liens avec la France. Mais en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres chefs d'État à l'époque, Bourguiba, Doré et d'autres. Mais la francophonie avec un grand F, c'est en fait aussi une grande opération politique et économique qui est en jeu depuis les années 60 et qui fait que idéologiquement, on va promouvoir et instrumentaliser le français pour asseoir d'autres types de coopération. Donc on a cette première partie. Et la deuxième partie, c'est les pratiques langagières dont on pourra parler plus tard.
On va en parler évidemment. Marie-Ève Humery, vous êtes d'accord pour dire qu'au fond, la promotion et le développement de la langue française en Afrique, elle continue d'être vue comme un facteur de développement et d'émancipation, ce qu'elle n'est pas toujours?
Oui et non, si on prend le cas du Sénégal, à partir des années 90, mais surtout 2000, on a vu, notamment dans la jeunesse, se développer un engouement pour l'anglais, puisque les zones de migration intéressantes devenaient les États-Unis, un petit peu le sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, donc l'espagnol devenait intéressant aussi. Mais effectivement, le français a perdu de son intérêt, dans la jeunesse en tout cas. Après, il faudra articuler ça à l'engouement pour les langues nationales, justement. Et là, on va peut-être en parler un petit peu plus tard.
On va évidemment en parler, mais on va commencer peut-être par une forme de critique, effectivement, de l'OIF. Rappelons qu'en 2018, lors de la désignation de la secrétaire générale de l'OIF, il y avait eu beaucoup de débats autour de savoir ce qu'était, au fond, le bon profil pour ce poste. Le choix, il était assez simple. Il était entre celle qui occupait le poste depuis 2014, Michaël Jean, ou la Rwandaise, Louise Mushikiwabo, pardon. Et à l'époque, on avait beaucoup mis en avant, précisément, le fait que l'avenir de la francophonie était en Afrique et que donc il était naturel de désigner plutôt une candidate africaine. C'est ce qui a été fait. Écoutez, je vous propose de l'écouter. Elle parlait hier sur TV5 Monde et puis on va revenir tout de suite en plateau.
La langue française, en fait, va bien au-delà de la France. Et c'est ça aussi la beauté de la francophonie. C'est que beaucoup de pays, y compris beaucoup de pays du continent, ont hérité du français, disons, dans des conditions où la langue était plus ou moins forcée sur les pays par les temps coloniaux. Mais très vite, les peuples se sont saisis de cette langue française, l'ont adoptée, l'ont adaptée aussi à leurs conditions. Et bien aujourd'hui, la langue française n'appartient pas qu'à la France.
Elle n'appartient pas qu'à la France et elle pose aussi des problèmes dans l'enseignement, notamment, on va en parler. Est-ce que vous avez le sentiment, l'une et l'autre, que cette nomination est de nature, au fond, peut-être à remettre justement au cœur du débat les difficultés spécifiques à cette place du français dans ces pays-là? Ou est-ce que vous pensez qu'au fond, rien ne va changer, bien que précisément, désormais, la secrétaire générale de l'OIF soit une Rwandaise, donc une Africaine? C'est difficile de faire un bilan, elle vient d'entrer en fonction début de l'année, mais il y a déjà un projet derrière.
Oui, mais bon, le discours ne change pas. Il a toujours été celui-ci depuis le début, c'est-à-dire une vision tout à fait tronquée de la réalité des pratiques, mais qui est normale pour quelqu'un qui est à ce poste, c'est-à-dire de continuer à faire croire que le français suscite un engouement.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites quelqu'un qui est à ce poste? Une politique?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et qui fait que elle ne peut que continuer à espérer que le français, cette langue qui est venue avec la colonisation et qui a été longtemps promue comme la langue de la civilisation, la langue moderne, la meilleure langue vis-à-vis des autres langues qui ont longtemps été caractérisées comme des dialectes, encore aujourd'hui, certains les évoquent comme cela. Donc on voit bien que ce départ des discours idéologiques sont difficiles à remettre en cause aujourd'hui, et même si on lui souhaite tout le courage, même si une politique africaine est en charge de la francophonie, les pratiques sont là et elles demeurent vivantes.
Marie-Ève Humry, est-ce que c'est pas ça le problème, précisément le fait que l'OIF, au fond, est une institution d'abord et avant tout politique? C'est 88 pays, l'OIF, et quand on regarde à l'intérieur les membres, il y a certains pays qui ne sont absolument pas des pays francophones. Je pense par exemple au Qatar, je pense aux Émirats Arabes Unis, je pense au Mexique, je pense au Costa Rica. Et tout cela nous fait dire que, voilà, il s'agit moins de questions linguistiques et culturelles que de questions politiques, finalement, voire géopolitiques.
Tout à fait. On a le sentiment, quand on observe ce qui se passe, qu'il y a un manque de pragmatisme de la part de la France et de la francophonie, considérant qu'en fait, on voudrait effectivement, comme Cécile le disait, faire plaquer les espérances sur la réalité, alors que dans les faits, c'est pas du tout ça qu'on observe quand on regarde, soit d'un point de vue sociolinguistique ou d'un point de vue sociologique, anthropologique, ce qui se passe. On est assez loin de ce qu'on peut entendre dans les discours. Et tant que il y a pas de prise en compte de l'articulation du français avec les langues africaines, justement, puisqu'on va parler surtout d'Afrique aujourd'hui, je crois qu'on va passer à côté. Et puis peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, on aura toujours les mêmes discours, pendant que d'autres nations occidentales, elles, depuis déjà des décennies, se sont mises à développer d'autres rapports au développement des langues africaines et de leurs propres langues à elles. l'américain ou même le japonais ou d'autres.
On va se poser sur le terrain, on va parler du Mali, on va parler du Sénégal, mais peut-être une toute dernière question sur l'OIF, Cécile Canu. Au fond, quel bilan est-ce qu'on pourrait faire de l'OIF sur le plan de la politique linguistique? Ça fait maintenant quasiment 50 ans que l'OIF est en place depuis 1970. Est-ce que finalement elle a changé quelque chose sur le plan des politiques linguistiques des pays, en particulier d'Afrique de l'Ouest dont on parle, ou finalement elle a été un peu indolore?
Moi, je pense qu'elle a été indolore, en fait, parce que c'est pas tellement, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas tellement de faire quelque chose pour le français, sauf un petit peu de développer des aspects culturels avec les grandes promotions chaque année de la francophonie. On le voit à chaque fois qu'il donne lieu à des fêtes, à des tas de choses. Mais en même temps, derrière, l'OIF, moi, je me souviens, dans les années 90, quand j'ai commencé à mon travail au Mali, c'était l'ACCT encore, je crois, le nom... l'agence de coopération culturelle et technique, et c'était très intéressant. J'avais des collègues maliens qui travaillaient pour la CCT et qui le disaient. Bon, on n'a rien le droit de dire, on n'a rien le droit de faire, on va juste réciter les catéchismes, mais on est très bien payé. Donc c'était des réalités strictement économiques, et je pense que notre rapport au terrain, Marie-Ève et moi, étant extrêmement important, enfin on aime et on a vécu dans ces pays-là, on voit bien à quel point, vu du Mali ou vu du Sénégal ou vu d'autres pays, ce sont des grandes messes, mais qui ne renvoient à rien de spécial, sauf avoir des postes, sauf effectivement avoir quelques bénéfices.
Et qui en tout cas n'ont pas beaucoup d'influence sur les politiques linguistiques des différents pays. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Ève Humery, pardon?
Tout à fait. Et ce qu'on peut déplorer aussi, c'est le manque de passerelle entre justement le monde de la recherche et les décisions politiques. Et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de pragmatisme. Aux États-Unis, les chercheurs qui travaillent sur le terrain sur ces questions-là, on utilise ce qu'ils font et on les paye pour faire ça. Ici en France, c'est compliqué de mener des recherches sur les questions linguistiques et culturelles en Afrique et d'avoir un poste à l'université ensuite. Donc c'est toute une politique globale, en fait, qui est à développer pour coller aux réalités et pour arriver à se décoller un petit peu des stricts enjeux d'influence France-Afrique ou plus largement francophonie, pour arriver sur la compréhension de ce qui importe aux yeux des Africains et donc de ce qu'on pourrait faire pour continuer à développer la francophonie, mais de façon intelligente, c'est-à-dire en bonne entendeur, si je puis dire, avec les Africains eux-mêmes.
Et on va regarder aussi comment on peut développer les langues nationales, et on va parler du Mali et du Sénégal dans un très court instant. Mais encore une petite question peut-être un peu générale, on va quitter l'OIF, mais je disais dans mon chapeau que effectivement la promotion de la francophonie pouvait avoir des effets néfastes, mettre le français au cœur des politiques linguistiques de ces pays d'Afrique de l'Ouest n'était pas forcément une bonne idée, mais est-ce que c'est réellement le cas? Jusqu'où est-ce qu'on peut incriminer la place du français dans l'enseignement de ces pays d'Afrique de l'Ouest, dans les difficultés d'apprentissage des jeunes Africains? De façon générale, est-ce qu'il existe des études tout simplement sur ce sujet, Cécile Canu?
Alors, il y a peu d'études, on en a fait il y a quelques années, mais ça reste effectivement souvent très flou. Les pourcentages sont complètement, on ne sait pas d'où ils sortent, par exemple, sur combien de pourcents, qu'est-ce que ça veut dire être francophone, par exemple. Ça n'a aucune réalité dans les faits, c'est-à-dire on peut dire le Mali est un pays francophone, mais de quel point de vue? Du point de vue du fait que politiquement la langue officielle est le français, mais du point de vue des pratiques, encore une fois, il n'en est pas. Bon, on dit 10%, on sait pas trop, mais c'est... Et du point de vue des politiques linguistiques, la francophonie ne fait rien de particulier, mais elle finance quand même un certain nombre de choses. Et notamment, moi j'ai participé une seule fois à une expertise des langues dans l'enseignement des langues nationales, notamment, puisque c'est ce qui m'intéressait pour le Bambara. Et on voit bien qu'au fond, par contre, quand la France finance, et c'est pour ça que les Maliens maintenant essayent d'être financés par d'autres pays que la France, c'est censé pour promouvoir le français un peu plus, écrire des manuels, les vendre, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose.
Marie-Ève Humery, même chose. Jusqu'où est-ce qu'on peut incriminer le français dans les difficultés d'apprentissage dans ces pays d'Afrique de l'Ouest? Et puis la question qu'il y a derrière, on va glisser doucement, c'est si effectivement ce n'est pas bon que de placer le français au cœur du dispositif linguistique et éducationnel de ces pays, pourquoi est-ce que les États continuent de garder le français?
Alors, j'aurais envie de vous répondre à l'inverse, c'est-à-dire, on sait à quel point il est facile pour des élèves africains d'apprendre à lire et à écrire dans une langue qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire leur langue, alors maternelle n'est pas forcément le bon terme, mais leur langue première, mais on ne le fait pas. Et certaines études, alors Cécile disait, on n'a pas beaucoup de travaux, effectivement on n'a pas beaucoup de travaux très fiables, mais on a quand même un recoupement d'approches, de regards, de travaux qui vont tous dans le même sens, oui. Qui est de dire, il est très difficile, et ça tombe sous le bon sens, hein, il est très difficile d'apprendre à lire et à écrire dans une langue que l'on ne comprend pas. Fort de ça, ça fait des décennies hein, qu'on dit ça, qu'on écrit ça. Fort de ça, oui, on peut s'interroger sur ce qui fait qu'on continue à vouloir, alors certains pays, le Mali, le Sénégal plus récemment, mais avec quel succès à chaque fois, essayent de trouver des formules un peu mixtes entre le français et les langues africaines, mais avec quel investissement sérieux en termes de moyens, de compétences pour que ça réussisse. Oui,
donc à s'entêter comme ça, on produit de l'exclusion et on parle de l'enseignement, mais au fond c'est aussi le cas dans le marché du travail lui-même, parce que par exemple dans tous ces pays qu'on a cités, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, si vous voulez par exemple travailler dans des administrations, si vous voulez être fonctionnaire, faut parler français.
Ben oui. Alors c'est ça qu'il faudrait, moi je pense, revenir, c'est aussi à l'histoire de toute cette question. C'est-à-dire que le français, ça, il n'est pas arrivé tout seul, il n'est pas arrivé avec des colons comme ça, il est arrivé avec un système, parce que la question qui se pose, c'est pas tellement de parler le français, on pourrait parler n'importe quelle langue, c'est l'école, bien sûr, qui est au centre de ça. Alors, la question de l'école est particulière. Pourquoi on garde le français? Tout simplement aussi parce que le français est arrivé avec l'école et l'école n'existait pas telle qu'elle est aujourd'hui en Mali. Et de fait, moi, toutes les enquêtes le montrent, les gens disent, notamment dans les zones rurales, mais nous, on n'en veut pas de l'école dans les langues nationales, tout simplement parce que le français, c'est la langue de l'école. Et donc, si on va à l'école, c'est pour apprendre le français.
Ce message, précisément, Cécile Canus, c'est aussi celui que vous aviez recueilli du côté de Bamako. C'était en 2008, lors d'un forum. On va écouter tout de suite ce que dit justement cet homme lors de ce forum, et on revient tout de suite.
Comment nous ne décidions pas ici et maintenant, en Afrique, de dire la francophonie à bas ? D'enlever le français de son statut de langue officielle obligatoire dans nos pays. Il n'y a aucune raison que ces séquelles de la colonisation demeurent encore. Mais je dis ça, ce n'est pas dans un point de vue revanchard.
C'est pas dans un point de vue revanchard. Cécile Canu, alors il va falloir nous décrypter peut-être un petit peu le contexte dans lequel vous avez recueilli ce témoignage, qui est un intéressant, c'est le message lui-même, mais aussi les réactions qu'on entend dans l'Assemblée. Et puis, la question qui se pose aussi, c'est de savoir où est-ce qu'on en est des mouvements de résistance qui, précisément, dénoncent cette place du français, le fait que ça soit mauvais, finalement, pour l'enseignement. Est-ce que, ces dernières années, on sent que ce mouvement est en train de prendre de la force? Cécile Canu.
Alors, c'est effectivement un discours qui a été prononcé dans un cadre tout à fait, qui n'avait rien à voir avec cette question, puisque c'était un forum autour des expulsés maliens et donc j'avais filmé à ce moment-là parce que je travaillais sur l'immigration et ces questions-là. Et tout d'un coup, Mohamed Tabouret, qui est un journaliste, qui est un militant, mais qui est à Bamako, et c'est tout l'enjeu, c'est que c'est la différence avec ce que je disais tout à l'heure des gens dans les zones rurales, qui s'est mis à reprendre une rhétorique de s'écoutourer, en fait, de dire « Abba, 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 on n'en veut pas, non, non, non ». Enfin, c'est un long discours, là, on a pris un tout petit bout. Et donc, il y a évidemment, dans les discours, beaucoup de résistance et beaucoup de personnes qui s'opposent à cette histoire du français colonial imposé comme une supposée langue de domination, une supposée langue meilleure et qui, de fait, et de domination. Et donc la résistance au Mali, elle existe, mais elle est assez souterraine. Voilà, moi j'ai eu cet échange tout d'un coup un peu par hasard, et du coup j'en ai fait un article parce que ça me semblait très intéressant, notamment parce qu'il n'était pas demandé à quelqu'un, parce qu'on peut demander aux gens, les gens peuvent produire des discours de ce type. Mais je pense qu'au Sénégal, il y a plus de discours, au Mali ça reste encore assez peu important.
Et au Sénégal, alors justement, est-ce que c'est aussi souterrain ou est-ce qu'on affirme davantage ses positions?
Au Sénégal, dès la période même pré-indépendance, on a eu des revendications haut et fort de place plus importante pour les langues nationales. Pas forcément contre le français, quoique il y a quand même eu toute cette vague panafricaniste, nationaliste, teintée de marxisme-léninisme, etc. Et la décolonisation ne pouvait passer d'une certaine façon que par le fait de lâcher le français pour s'émanciper. Donc ça, ça a été très fort à cette période-là.
Ce qu'a fait Sékou Touré.
Exactement.
C'est le seul en Guinée, pardon. C'est effectivement Sékou Touré qui était un espoir pour l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il a, dès les indépendances, rompu avec De Gaulle, et il a décidé de mettre que les langues nationales comme langue d'enseignement. Et les pays africains, notamment le Sénégal, avaient vraiment regardé de près cette expérience pour pouvoir la généraliser.
Tout à fait.
Marie, oui.
Et donc, on a vu un mouvement, en l'occurrence, que j'ai donc étudié au Sénégal, que j'ai appelé le mouvement Poulard, émerger dès cette...
Poulard, c'est la langue
Alors,
peu, là.
Poulard, c'est la langue voilà. peu, pardon.
Non,
la quatrième langue la plus parlée au sud du Sahara. À peu près 20-30 millions de locuteurs. On a vu donc tout un militantisme émerger à partir des années 60, qui s'est considérablement renforcé dans les années 80 et qui a été très actif jusqu'aux années 2000, et qui consistait dans le fait de promouvoir le développement, entre guillemets, de la langue peul par l'écriture. Donc de l'alphabétisation à une échelle massive, y compris en milieu rural, et puis un mouvement aussi éditorial très important en utilisant l'écriture latine adaptée, l'alphabet dit de Bamako.
Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, on va revenir un petit peu, on va décrire peut-être un peu plus précisément, vous expliquez qu'il y a dans ce mouvement Poulard plusieurs étapes, il y a la fin des années 50 jusqu'aux années 80, il y a les années 80-90 et puis il y a le mouvement depuis les années 2000. Peut-être qu'il faudra nous dire effectivement comment est-ce qu'il a évolué dans ces, pourquoi au fond ces trois étapes, et à quel moment aussi émerge la revendication d'un apprentissage du peul à l'école, parce que c'est ça l'enjeu.
En fait, revendication, elle a été permanente, je crois sans grande illusion en même temps, c'est-à-dire que si ça s'est déployé, ce mouvement, sur de l'alphabétisation, en partie rurale, mais pas que, hein, aussi en milieu urbain, c'est bien parce que je pense que les militants n'avaient pas d'illusion quant au fait que le Sénégal allait changer de politique linguistique et introduire les langues nationales dans le système éducatif. Mais ça n'a pas empêché, du coup, ce mouvement d'avoir une assise importante, de recueillir certains effets, entre guillemets, ou en tout cas des incidences positives sur des tas de plans, sur le plan de la place de la femme, de minorités sociales, les jeunes notamment, les groupes statutaires esclaves, descendants d'esclaves, le développement économique.
La question que je me pose, Marie-Ève Imri, s'agissant de ce mouvement Poulard, donc de cette promotion de la langue peul, est-ce que c'est seulement le résultat, au fond, d'une politique linguistique jugé trop tourné vers le français, celle portée par Léopold Senghor, ou est-ce que c'est aussi autre chose?
Ça a été complexe. En fait, il y a eu des racines à la fois au moment de la négritude à Paris, donc ce vaste mouvement intellectuel qui revendiquait une fierté possible et une possibilité en fait d'exister culturellement en tant qu'Africain et pas seulement Africain. Enquisté, si je puis dire, dans le français, la France et la culture française. Il y a eu aussi des étudiants à Dakar qui se sont mobilisés pour réagir à la wolofisation, c'est-à-dire le wolof qui est la lingua franca, la langue dominante au Sénégal. Et puis, il y a eu côté mauritanien, puisque les Sénégalais et les Mauritaniens sont dans un rapport de mobilité et de liens très étroits à travers la vallée du fleuve Sénégal. Il y a eu côté mauritanien ce mouvement d'arabisation qui évinçait finalement de l'ordre politique et social, de la mobilité et du pouvoir, les négro-mauritaniens qui parlaient justement les langues africaines type peul, soninké, ou Bambara.
Cécile Canu, est-ce qu'on a vu aussi du côté du Mali émerger des mouvements un peu comparables à celui du mouvement Poulard, avec cette revendication d'avoir des apprentissages, pas seulement en langue française, mais aussi dans les langues qui sont parlées là-bas, le Bambara, le peul, le Sangaï, le Tamatchek, j'en sais rien.
Alors oui, bien sûr, mais pas en termes de revendication. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on a tendance, et c'est le titre, je crois, de votre semaine, Guérilla des langues, on a tendance à percevoir souvent, nous, de notre point de vue européen, les pratiques des langues comme exclusives, c'est-à-dire si c'est l'une, c'est pas l'autre, alors que quand on vit en Afrique, on voit bien que justement un enfant à 3-4 ans va parler déjà 3-4, ce qu'on pourrait appeler 3-4 langues.
De si fait, c'est le canu à l'école, c'est une, c'est pas 10.
Oui, alors justement, toute la question, c'est l'école. Et c'est cette vision qu'on a de la langue en tant qu'unificateur. D'une nation telle que l'Europe l'a construite. Et si au Mali ou dans d'autres pays, c'est compliqué, cette histoire, c'est bien parce qu'on n'a pas du tout la vision de la langue en tant qu'objet sacré. On a une vision en tant que pratique, en tant que, qu'activité de langage qui fait qu'on...
Alors, il n'est pas, vous voulez dire, il n'est pas un élément de la construction d'une forme d'unité nationale. C'est pas vu comme ça du côté notamment du Mali, par exemple.
C'est ce qui fait... On ne peut pas généraliser... C'est en tout cas ce qui ressort d'une grande de toutes mes observations, c'est-à-dire qu'au fond, les personnes vont partir, je sais pas, en zone sonra, ben oui, elles vont se mettre à pratiquer le sonra ou à pratiquer d'autres langues. C'est quelque chose d'hyper naturel qui fait que vouloir absolument réduire un pays à une langue, c'est pas quelque chose qui est évident. Et du coup, le français est resté.
J'entends bien Cécile Canu, mais quand même, vous parlez du Mali. Tout de suite après l'indépendance, il y a une réforme de l'éducation qui est mise
bien
en
sûr.
Place. J'ai lu ça sous votre plume, hein. je l'ai appris. Et on envisage de se passer du français.
Non. Alors, on n'envisage pas de se passer du français.
Alors vous allez nous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on envisage de faire?
Alors,
en tout cas, on n'envisage pas de prendre par exemple, le Bambara pour justement dans un projet. Au fond, unificateur aussi.
Voilà.
Alors expliquez-nous.
Ce que je viens de dire juste avant, c'est lié à l'expérience au quotidien des pratiques langagières des gens. Et ce que maintenant on peut évoquer effectivement, ce sont les politiques linguistiques qui, depuis les années 60, tout de suite après les indépendances, se sont mises en place pour la codification, la standardisation des langues maliennes. Et on est aujourd'hui à 13 langues nationales au Mali. Donc il y a une revalorisation au niveau politique. On va faire en sorte que les langues deviennent des langues nationales, qu'elles soient instrumentalisées au sens où elles puissent donner lieu à des dictionnaires, des grammaires, etc. Et effectivement, pour qu'elles puissent être enseignées. Donc, on va choisir 4 langues essentiellement dans le cadre du Mali. Aujourd'hui, on en est à 5. Mais vous l'avez dit, donc le Bambara, le Sonra, le Peul, le Tamashek, aujourd'hui un peu le Dogon. Mais ça fait quand même depuis 1962 qu'on est dans les expérimentations. Et une expérimentation aussi longue peut quand même nous amener à se poser des questions. Et j'ai encore demandé à mes collègues là récemment pour être sûre qu'il n'y avait pas de changement. Il n'y a pas vraiment de changement. C'est-à-dire que, oui, il y a toute une élite qui est consciente du problème réel. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive dans une classe et qui ne connaît pas la langue et qui doit faire un problème de mathématiques, ben, il ne peut pas résoudre ce problème de mathématiques. Donc, il y a un vrai souci parce qu'il y a une déperdition scolaire énorme. Donc, il y a ce problème-là. Mais, par contre, les expérimentations, elles sont très controversées. Il y a une partie
Pourquoi ?
Des Maliens qui, notamment du pouvoir, des gouvernements, qui résistent. Alors, il y a plein de raisons. Il y a des raisons essentiellement politiques, c'est-à-dire le poids de la France, le poids de la nécessité pour les élites de conserver une langue de domination, parce que ça a toujours été, depuis Senghor, un élément extrêmement utile, les relations internationales, et cette histoire d'imaginaire linguistique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour pouvoir évoluer dans la société d'un point de vue économique, une grande partie, même si le Bambara a quand même permet beaucoup de choses, une grande partie des gens le savent, et ils n'en sont pas dupes, toutes les structures font que ben, c'est en français que ça se passera. Si on veut devenir un site, si on veut rentrer ou si on veut partir du Mali pour trouver un travail ailleurs. Donc si les structures sont telles, comment faire en sorte de convaincre les gens d'amener leurs enfants dans les classes en langue nationale? Du coup, ils disent c'est des classes pour les paysans, c'est des classes au rabais. Tout l'enjeu est là.
Alors, on va faire aussi peut-être un jeu de miroir du côté avec vous sur le Sénégal, Maria Vumri. Alors, on va pas revenir aux indépendances, on est un tout petit peu après. On va d'abord écouter une archive de Léopold Senghor, évidemment. On est en 1974, alors il fait l'apologie du bilinguisme et puis il annonce aussi l'enseignement de langue nationale à l'école. Écoutez.
J'ai toujours refusé de considérer la seule langue wolof comme la langue nationale. Nous avons 6 langues nationales. Et dans la nouvelle réforme de l'enseignement à l'école primaire, chaque élève apprendra sa langue maternelle et la langue française. Sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue le plus généralement parlée dans l'arrondissement. Je pense que le bilinguisme, c'est une richesse. Comme je dis, on est beaucoup mieux sur deux jambes que sur une jambe.
Voilà, le bilinguisme, c'est une richesse. On est mieux sur deux jambes que sur une jambe. Marie-Ève Humery, vous écrivez dans l'un de vos articles, je vous cite. « Pour résumer d'un mot la politique linguistique d'alors, la notion de flottement pourrait convenir, ou mieux encore, celle du double jeu. »
Bah oui, double jeu, parce qu'on est dans une hypocrisie avérée. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les discours, les langues nationales doivent avoir leur place et on va faire des petites expérimentations, comme Cécile l'évoquait tout à l'heure aussi pour le Mali. Mais on ne va pas mettre les moyens nécessaires, comme je le disais tout à l'heure, concernant la politique de l'OIF aussi, on le disait. On ne mettra pas les moyens.
L'OIF, je rappelle, pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, pardon. L'Organisation internationale de la francophonie.
Oui, on ne mettra pas donc les compétences nécessaires, les moyens financiers nécessaires, et donc on s'étonnera ensuite que les résultats ne soient pas très probants, et ça permettra de dire, ben voyez, on va quand même continuer à miser sur le français, parce que c'est quand même pas évident les langues nationales. Je me souviens avoir fait une mission en Namibie pour le compte de la coopération allemande, qui s'étonnait que dans un pays de 2 millions de personnes, avec, alors de mémoire, si je ne m'abuse, 14 langues nationales, on puisse développer des manuels scolaires dans les 14 langues nationales, donc parfois pour quelques milliers d'élèves dans la langue, et que tout ça marche très bien et que l'édition arrive à être rentable. Donc je crois qu'à un moment, quand il y a un vrai désir politique et qu'il y a une certaine vision, une clairvoyance sur l'intérêt de faire les choses d'une façon un peu raisonnable et qui correspondent finalement à l'intérêt des populations,
on y arrive.
On trouve des solutions. Mais je crois qu'on en est encore assez loin.
C'est vrai que c'est compliqué parce que vous parlez des manuels scolaires. Il faut aussi peut-être revenir sur ce que ça représente concrètement que de prendre une langue et d'organiser l'alphabétisation dans la dite langue. Cécile Canus, si on regarde par exemple du côté du Mali, mais c'est la même chose au Sénégal. À chaque fois, c'est la même chose. Il faut d'abord standardiser la chose, grammatiser, si je puis dire, le langage. Il faut des manuels scolaires, il faut former des professeurs. Tout ça est compliqué et tout ça
coûte cher.
Et tout ça coûte cher. C'est pas seulement la volonté politique, je veux dire.
Oui, mais alors, on pourrait aussi citer le cas du Swahili. Encore une fois, il y a la dimension économique, ça coûte cher.
Tu parlais en Afrique de l'Est, pour le coup.
Et oui, et pour l'Afrique de l'Est, on voit bien, le Swahili est une langue aujourd'hui parlée par, on dit 100 millions, bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est un chiffre énorme, qui est devenu la langue officielle de 3 pays, Tanzanie, Kenya, Ouganda. Et donc, c'est comme Marie-Ève l'a dit, c'est tout à fait possible. Après, on voit bien, le Mali dépense par exemple énormément d'argent pour ces questions-là. Un tiers du budget,
ouais, l'éducation, j'ai regardé hier, on en parlait juste avant l'émission, 2018, le budget pour l'éducation, c'est 34% du PIB. Je ne sais pas s'il y a un pays qui dépense plus.
Voilà, c'est énorme, sauf que ça ne marche pas du tout, parce que la volonté politique, justement, n'y est pas. Dans les classes en Bambara, il n'y a rien. Les enseignants sont totalement délaissés, alors qu'il pourrait y avoir un travail. Si, par exemple, quand on fait des expertises soi-disant venues de France, moi je connais des collègues qui maintenant sont à la retraite, je peux en parler, qui vont grassement payer faire des expertises pour le français et soi-disant les langues nationales, et qui en fait ne donnent évidemment strictement aucun signe concernant les langues nationales. Donc il y a derrière des tas d'enjeux politiques qui font qu'il n'y a pas la volonté, et que au fond, les langues national reste de l'ordre du folklore, quoi, pour beaucoup.
On en revient à un manque de vision, c'est-à-dire que dans les pays anglophones, et ça rejoint aussi l'histoire coloniale justement, où on a pensé, comme Cécile le disait, les choses de façon exclusive, à l'image de l'histoire de notre propre nation, bien sûr. On est dans l'incapacité d'avoir cette pensée de la complémentarité qui est justement si vivante en Afrique, y compris sur le plan sociologique en anthropologiques, où les choses ne s'excluent pas. Elles s'additionnent, elles se complètent, elles œuvrent sur des registres, sur des plans différents, dans des sphères différentes. Et nous n'arrivons pas, en tant qu'occidentaux pétris de notre rationalité, à nous dégager de cette vision très binaire des choses. Et ça, non seulement ça nuit aux populations africaines elles-mêmes, mais ça se retourne aussi contre nous. Parce qu'effectivement, derrière, la Chine, les États-Unis, etc., trouvent leur espace pour développer des politiques linguistiques plus efficaces, plus efficientes, et qui sont tournées réellement, elles, vers l'avenir.
Mmh. Cécile Canu, est-ce que c'est, et puis je vous laisserai réagir librement, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais est-ce que c'est seulement une question de langue, finalement?
Non.
Là, depuis tout à l'heure, on met la langue au cœur des difficultés d'enseignement dans ces pays-là. Est-ce qu'on a complètement raison? Est-ce qu'on n'oublie pas des choses?
Bien sûr, c'est pas du tout une question, en fait, de langue. D'ailleurs, la langue, qu'est-ce que c'est? C'est une invention, c'est une création. La langue, au fond, n'existe pas. Enfin, bon, ça, c'est ma position. La langue est inventée, elle est créée, elle est constituée. Et à partir de là, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et comment elle est instrumentalisée? Ce qu'évoque là Marie-Ève est très important. Moi, je l'ai traité à partir d'une notion que j'aime beaucoup d'Anne-Marie Hudebeen, qui s'appelle l'imaginaire linguistique, qui fait que les effets des imaginaires et des discours, on ne se rend pas compte à quel point ils sont puissants. Et que, effectivement, ce n'est pas une question de langue. La langue, elle est là, elle n'est pas là, les gens se l'approprient, la laissent, la reprennent, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de langue qui meurt ou qui naisse. Ça se transforme tout le temps, ça se malaxe, tout ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des discours. Et les discours qui viennent de la colonisation par rapport au français, qu'on a connu, comme le disait Marie, aussi en France, avant, interdiction de parler breton, éradication de tout ce qui était en France autre que le français, ça s'est reproduit ensuite en Afrique, avec quand même une chose qu'on évoquait beaucoup à l'université Buissonnière, justement hier à la colonie, c'est le symbole. Quand même, un enfant à qui on donne un petit objet avec une tête un os ou une tête d'animal mort dès qu'il parle sa langue maternelle, dès qu'il entre en CP, à 6 ans, c'est quelque chose de terrible, et ça entraîne la terreur chez les enfants, et je viens de me rendre compte que ça continue encore parfois d'être utilisé.
On demande aux enfants de se dénoncer les uns les autres à l'époque coloniale, mais ça peut continuer.
Ça continue.
Le bonnet d'âne, etc. Donc on est dans à la fois la stigmatisation, la délation, la honte, enfin, on va sur...
Mais on n'est pas que là-dedans, Marie-Ève Humry. Si on regarde par exemple le cas du Sénégal, au début des années 2000, on a reconnu de nouvelles langues comme langue nationale, et notamment le Wolof dont on parlait tout à l'heure. Donc on voit bien quand même qu'il y a un effort pour produire un autre discours. Alors après, je sais pas concrètement comment ça se transforme et comment ça ce que ça produit à l'intérieur de l'école, mais on voit bien qu'il y a quand même ce désir de construire un autre discours sur les langues quand même, non?
Oui, mais c'est toujours très politisé, c'est-à-dire que alors les langues nationales, y compris le Wolof, c'est depuis les indépendances, hein, c'est pas les années 2000, mais ce qui s'est passé...
Vous confirmez qu'il y a une nouvelle vague de reconnaissance de langue au Sénégal comme langue nationale.
C'est un peu plus complexe que ça,
alors,
je pense. Il y a eu au moment des années WAD un tournant à la fois de perte d'une certaine façon de l'idéal de laïcité dans ce pays et de miser justement plus ouvertement sur le Wolof, alors que jusque-là on essayait de faire comme si. Ouad a eu des jeux d'alliance avec de grands marabouts mourides, donc on est sur des intérêts clientélistes en fait, politiques, vraiment de la politique politicienne de bas étage si je puis dire. Et donc, on est sur des effets d'annonce. On n'est pas sur une prise de conscience de ce qu'il faudrait faire pour que les populations puissent être mieux éduquées et pour revaloriser réellement les langues nationales au-delà de ces partis pris idéologiques.
Cécile Canu, et puis ensuite on va prendre la direction de l'Algérie.
Oui, je voulais juste rajouter, peut-être pour aller un tout petit peu dans votre sens quand même, c'est de dire que le seul endroit où des choses sont en train de bouger, c'est pas dans le politique, là, je suis complètement d'accord. Par contre, c'est dans la recherche. Au Sénégal notamment, avec une arrivée d'un discours postcolonial via les États-Unis d'ailleurs, parce que ce sont les chercheurs qui sont partis aux États-Unis, et le développement de la politique de la recherche au Sénégal qui fait que quelque chose émerge. Voilà.
On est dans cette série consacrée aux guérillas linguistiques aujourd'hui. À qui profite la francophonie? À qui profite le français? C'est une question qu'on se pose avec Cécile Canu et Marie-Ève Humery. Il est 11h, presque 40 minutes. On va prendre la direction de l'Algérie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le facteur aliénant au départ, c'est-à-dire écrire en français, devient maintenant une position de force. Parce que, m'appuyant sur mon éditeur français, je peux faire passer ici, dans la presse française, des choses que je ne pourrais pas faire passer ailleurs. Par conséquent, c'est d'ailleurs très, très intéressant, au fond, ce qui prouve qu'on ne peut pas aliéner un peuple par la culture. Une langue n'est pas aliénante, une culture ne peut pas être aliénante. Alors, malgré tous les efforts qu'on a faits pour nous franciser, en fait, la culture française nous ramène à nous-mêmes. Et ici, enfin, en quelque sorte, les mêmes choses par lesquelles on a prétendu nous enchaîner nous libèrent. Ça, c'est un espoir. C'est un espoir qui n'a rien d'absurde. Parce que, en fait, maintenant, et de plus en plus, la décolonisation ne se fait pas en parole. Elle se fait dans le choc entre ces peuples.
Voilà, vous aurez peut-être reconnu la voix de Kateb Yassine, celui qui disait de la langue française que c'était un butin de guerre, qui parlait à l'instant de la langue française, qui serait pas un outil d'aliénation mais de libération. Alors quelle place justement le français a aujourd'hui dans l'Algérie contemporaine? Comment les langues ont pu être aussi instrumentalisées dans l'histoire du pays? On va accueillir une nouvelle invitée. Bonjour Sarah Aït Amou.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Algérie. Vous avez fait une thèse sur la politique d'arabisation et on va en parler de cette politique d'arabisation. Mais d'abord, venons-en à l'époque contemporaine. Partons d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'études vraiment très précises sur l'état de la langue française aujourd'hui dans l'Algérie contemporaine. Mais ce qui se dit communément, c'est qu'elle est en perte de vitesse. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Et à quoi serait dû ce recul? Est-ce que c'est une volonté des pouvoirs publics de limiter son usage à la faveur d'autres langues? L'arabe, l'anglais, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une autre question, peut-être une question de moyens?
Alors, oui, donc en effet, il y a un petit recul donc qui est visible donc dans la société algérienne aujourd'hui, qui est fortement arabisée et islamisée. Mais même si les chiffres de la francophonie notamment donnent encore un nombre important de locuteurs français en Algérie, donc on est quand même à peu près à 60%. Mais c'est vrai que dans les faits, l'arabisation, même si elle a été un échec d'un point de vue politique et linguistique, d'un point de vue social, la société est quand même fortement arabisée et donc via le vecteur de l'islam, donc islamisée et par là même donc arabisée.
Mais est-ce que c'est seulement une question politique? Je vous pose la question parce que je lisais hier un article dans le journal La Croix et il y avait notamment une intervention du sociologue Nasser Djabi et lui il disait que, à propos donc de cette bataille des langues, il disait qu'elle avait changé de nature. Elle est passée d'une nature idéologique dans les années 60-70 à aujourd'hui une question au fond purement économique.
Oui, tout à fait. Il y a les deux. Il y a toujours eu les deux depuis les années 70-80. Donc il y avait la motivation purement idéologique, donc de redonner sa place à la langue arabe. Donc par rapport notamment à la colonisation française où il y avait quand même un déclassement de la langue arabe et une politique d'assimilation, donc qui ont conduit à une déculturation et une dépersonnalisation de la personnalité algérienne. Donc tout de suite après l'indépendance, on a voulu, notamment avec Boumediene, donc il a voulu vraiment se réapproprier la langue arabe comme instrument déjà politique, hein, c'est un instrument vraiment politique et idéologique pour asseoir un peu son pouvoir, donner un peu de légitimité à son pouvoir. Et c'est vrai qu'il y avait l'enjeu économique aussi derrière, parce que c'était aussi une occasion pour les arabisants en fait de prendre la place des francisans, notamment dans les milieux économiques et de la haute administration. Donc en mettant une espèce de sentiment de culpabilité vis-à-vis des francisans, donc avec le lien de la langue française et de l'ancien colonisateur. Donc c'était une espèce d'enjeu économique et d'opportunisme un peu politique et économique.
Voilà. Vous le disiez, il y avait évidemment un enjeu politique très fort, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la part des mouvements nationalistes l'ambition de porter un discours selon lequel, au fond, l'arabe serait, d'une certaine manière, la langue des origines, ce qui, en fait, ne correspond pas du tout à la réalité, parce qu'on est, en fait, à l'époque, dans un paysage extrêmement plurilinguistique. Donc, il y a quand même ce désir, au fond, d'arabiser l'Algérie. Comment ça s'illustre concrètement? Quelles sont les mesures qu'on va prendre après l'indépendance pour développer l'arabe et avec quels effets?
Alors donc oui, il y a cette volonté en fait de réarabiser l'Algérie. Donc même si, comme vous dites, elle était plurilingue, elle était fortement berbère, elle était donc il y avait le français qui était là pendant 132 années. Il y avait vraiment beaucoup de langues, mais le choix de l'arabe en fait était purement idéologique et politique. Donc dans le sens où c'est la langue du Coran, donc on utilise la langue du Coran pour donner une légitimité à ce pouvoir qui n'en avait pas. Donc par rapport par exemple au Maroc qui avait une certaine légitimité du fait de sa monarchie, le pouvoir algérien, notamment celui de Boumedienne qui a pris le pouvoir via un putsch, n'avait pas de légitimité, donc c'était une façon pour lui d'asseoir son pouvoir et de lui donner une légitimité à travers la langue arabe qui est la langue sacrée du Coran. Donc on dissocie jamais donc le langue arabe et Coran. Il y a toujours cette corrélation très forte qui fait qu'aujourd'hui la langue arabe est sacrée, enfin depuis toujours la langue arabe est sacrée en Algérie.
Mais alors justement la question, évidemment vous vous doutez derrière, la question c'est jusqu'où est-ce qu'on peut dire qu'au fond l'arabisation s'est accompagnée d'une montée en puissance de l'islamisme radical. Au fond, est-ce que finalement l'apprentissage généralisé de l'arabe a posé d'une certaine manière les bases de l'émergence de l'intégrisme islamiste qui viendra après?
Alors oui, donc ça s'est fait donc via une islamisation, tout à fait. Donc on a laissé un peu le terrain aux islamistes. Donc on les laissait, donc il y avait des enseignants en fait au niveau des instituts islamiques qui ont été créés spécialement pour ça. Donc on arabisait par l'islamisation, c'est-à-dire qu'on utilisait la langue arabe dans ces instituts-là. Donc et ça a donné vraiment une forte légitimité à ces instituts-là, à ces enseignants-là qui étaient des non-voulus en fait du système scolaire, c'était des gens qui sortaient du système scolaire très tôt et qui étaient récupérés par ce type d'institut pour justement leur donner cette capacité de d'islamiser et d'arabiser les autres générations qui viennent après. Mais bon, la politique d'arabisation en fait d'un point de vue linguistique n'a pas fonctionné. Elle a fonctionné vraiment d'un point de vue social, idéologique, mais linguistiquement et de façon pédagogique, il n'y a pas.
Elle n'a peut-être pas eu les effets escomptés. Vous restez avec nous, Sarah Itamou. Voilà. Là, j'ai deux invités en plateau qui brûlent d'envie de réagir. Alors, on va commencer par Cécile Canu.
Oui, non, alors je vais parler sous le contrôle de ma collègue Mariam Guélouz, qui est sociolinguiste et qui travaille sur ces questions aussi. Et je voulais juste préciser quand même qu'il est difficile d'assimiler, parce que c'est très vif en ce moment en France, cette question, d'assimiler une langue avec une question politique, religieuse, etc. C'est-à-dire que des discours effectivement se saisissent de l'arabe pour en faire, comme on l'a vu tout à l'heure pour le français, toutes sortes de choses, et notamment pour évidemment l'assimiler à l'islam, est une chose. Mais attention, la langue en elle-même ne porte rien, et le fait de parler l'arabe n'a rien à voir avec l'islam.
C'est un rappel nécessaire. Je suis pas sûr que c'était ce que vous voulez dire, Sarah Itamou, mais voilà, vous avez raison de le préciser.
Peut-être
un mot aussi qu'on peut rajouter, Sarah Itamou, c'est qu'évidemment cette arabisation, elle a eu des effets, et notamment sur des populations qui n'étaient pas arabophones, et je pense aux berbérophones, pour le coup, qui se sont opposés beaucoup à cette politique d'arabisation.
Oui, bien sûr.
Hein ? Je vous en prie.
Oui, ce sont les premiers d'ailleurs qui se sont vraiment opposés et qui se sont manifestés à travers différentes époques. Il y a eu plusieurs grèves, la grève des cartables en 94-95, les différents printemps berbères, donc en 80, puis en 2001. Donc ils ont toujours été là pour s'opposer justement à cette arabisation qui ne prenait nullement en compte la question berbère, la question de la langue berbère dans cette politique linguistique-là.
Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, ils ont obtenu gain de cause? 2016, il y a une révision de la constitution algérienne qui a permis la reconnaissance du berbère comme langue officielle. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que, effectivement, Sarah Itamou?
Oui. Alors, en effet, c'est une petite victoire dans le sens où, avant la reconnaissance officielle, ils avaient obtenu que la reconnaissance nationale, donc au niveau de la Constitution. Donc, en 2002, c'était pas assez satisfaisant. Donc, ils ont continué à revendiquer leurs droits jusqu'à la reconnaissance officielle en 2016. Et ce qu'ils voulaient aussi, c'est vraiment l'enseignement de la langue berbère à l'école. Donc, c'est un enseignement qui est proposé aujourd'hui, mais de façon très marginale et on propose même des fois de choisir entre l'anglais et le berbère, ce qui peut paraître un peu réducteur et pas très attractif pour les étudiants. Donc c'est vrai que la façon dont ça a été fait, là aussi, c'est toujours avec de façon un peu hypocrite et un peu pas très linguistique en tout cas.
Vous parliez de l'anglais, peut-être que ce sera ma dernière question, on arrive presque au terme de cette émission. Vous nous disiez tout à l'heure qu'effectivement on constate sur le terrain un recul du français. Est-ce que ça se fait au dépens de l'anglais? Est-ce qu'au fond, il faut se faire à l'idée que l'Algérie de demain, eh bien, on parlera de moins en moins français, mais de plus en plus anglais? Et peut-être de moins en moins berbère aussi, mais...
Alors oui, l'anglais prend de la place en effet. Alors tout ça se fait via les réseaux sociaux, l'accès aux nouvelles technologies. Donc les jeunes sont très attirés par cette langue-là, même s'ils ne sont pas du tout hostiles au français, une langue aussi qu'ils utilisent au niveau des réseaux et dans laquelle ils sont très à l'aise. Mais c'est vrai que l'anglais pourrait supplanter la langue française en Algérie. Oui, ce serait pas impossible.
Toute dernière question, Cécile Canu, réaction en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission. Cécile Canu, Maria Vumery, en guise de conclusion.
C'est juste retenir que c'est une histoire complexe et que ce qu'on peut peut-être espérer, c'est de ne pas, comme on vient de l'entendre là pour justement l'Algérie notamment, ne pas envisager les pratiques langagières uniquement en termes d'opposition, de compétition, comme des objets qui seraient...
Ce qu'on fait trop souvent.
Oui, ce qu'on fait souvent, parce que c'est une vision très occidentale des choses et qu'idéologiquement, autour de tas d'autres langues, il y a des pratiques langagières plurielles, variantes et tout à fait passionnantes à vraiment expérimenter.
Maria Vumery.
Oui, pour aller dans le même sens que Cécile, je pense qu'il est important de comprendre que des personnes qui sont en harmonie, si je puis dire, avec leur culture propre, sont des personnes qui s'ouvrent d'autant plus facilement à d'autres langues, et donc le français en l'occurrence, puisque le français est quand même une langue qui vient de l'étranger, même si elle est devenue africaine. Et donc il s'agit de pouvoir développer cette pensée de l'association et cesser avec ces oppositions qui sont délétères et problématiques.
Raciné et soutenu, un grand baobab au feuillage épanoui, avec comme racine diversité culturelle, avec comme sève nos inégalités, un grand baobab raciné et soutenu.
Merci beaucoup à Sarah Aït Amou qui était à l'instant avec nous par téléphone. Et je rappellerai, on parlait de l'Algérie à l'instant, peut-être vous venez de me glisser, Cécile Canou, ce prospectus, effectivement, les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, arabe-français, quelle histoire, ça sera au mois de mai, les 25, 26 et 27 mai. Ah oui, dernier, pardon, oui, vous avez raison, mais alors effectivement, vous interveniez l'année dernière, je croyais que c'était cette année, moi, évidemment.
Mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Cécile Canu.
Ben voilà, j'ai
compris.
Mais
on est tellement proches l'une
voilà.
de l'autre.
Bon, alors Marie Emery, merci infiniment. Cécile Canu, merci infiniment. Bon, on va essayer de se remettre bien en place. Je crois que c'est Brice Couturier qui est arrivé dans le studio, mais je ne suis pas sûr. 11h53. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Ça m'est arrivé souvent, Florian.
Oui, mais moi ça m'arrive souvent aussi, c'est grave. Alors, on peut déplorer l'érosion du sentiment démocratique en Europe, Brice, tout le monde le fait, mais une fois qu'on a identifié les menaces qui pèsent sur nos démocraties, que fait-on pour les défendre, Brice?
C'est la question qu'a posée Judy Dempsey, la responsable du département Europe au Carnegie Endowment. Elle a posé cette question à une douzaine d'experts appartenant à toutes sortes de think tanks et d'instituts européens. L'UE en fait-elle assez pour protéger sa démocratie? Et leurs réponses convergent sur un point. L'Union européenne a pris trop tardivement conscience de ces menaces. Elle n'avait pas compris que les opinions publiques étaient manipulables à ce point, ni que ses adversaires avaient déployé de tels moyens afin de les influencer. Beaucoup ajoutent, maintenant qu'elle a réalisé ses vulnérabilités, elle fait de grandes proclamations et promet de se défendre, mais en Europe, des paroles aux actes, il peut s'écouler bien des années. Mais commençons par l'identification des menaces en question. Ian Bant, du Center for European Reform, les résume ainsi. Dans la période post-guerre froide, l'UE a fait preuve d'une euphorie injustifiée. Elle a imaginé que l'expansion de la démocratie, parallèle à son propre élargissement, était irrésistible. Et cela a engendré deux problèmes. Primo, l'UE a porté trop peu d'attention à la manière dont de grandes puissances non démocratiques pourraient être amenées à défendre leur propre système de gouvernement contre l'empiètement des normes et des valeurs européennes. Cela l'a rendu vulnérable aux ingérences d'une Russie qui cajole les droites populistes européennes. Et la Chine, de son côté, a mis à profit sa puissance économique pour miner l'unité européenne. Enfin, l'extrême droite américaine déverse des fonds occultes pour exercer son influence dans plusieurs États européens. Sans nier la réalité de la guerre hybride que nous livrent certaines puissances étrangères, que l'unité des Européens gêne et qui préférerait monter nos petites nations les unes contre les autres, Sophia Gaston, du Center for Social and Political Risk, met en garde contre une autre tentation. Celle qui pourrait bien pousser des dirigeants politiques en Europe à attribuer à des influences étrangères tous les mouvements sociaux au lieu de tenter de résoudre les problèmes bien réels rencontrés par leur peuple. Un son de cloche à ses voisins chez Roland Freudenstein du Wilfried Martens Center for European Studies, un think tank qui dépend du Parti populaire européen. Protéger nos démocraties passe certes par notre capacité à réagir aux ingérences extérieures, mais cela exige aussi une capacité à détecter les mouvements d'humeur de nos opinions publiques et à répondre aux inquiétudes qu'elles manifestent par des actes plutôt que par le mépris. Prenez ainsi, je cite Freudenstein, l'idée que des frontières ouvertes peuvent mettre en danger une société ouverte si une immigration de masse incontrôlée telle que celle de 2015 conduit à la création de sociétés parallèles dans beaucoup de nos cités. Le fait de déclarer, comme l'ont fait de nombreux médias publics en Europe occidentale, que l'immigration est toujours une bonne chose et que les réfugiés sont les bienvenus, cela aussi met la démocratie en danger. Parce que cela contraste de manière frappante avec l'expérience quotidienne des gens au cours des années récentes. C'est pourquoi protéger nos constitutions et nos valeurs à travers des mécanismes européens et par le renforcement des sociétés civiles est aussi important que de nous assurer que les migrants acceptent ces valeurs. Protéger les frontières extérieures de l'UE et parler honnêtement des aspects négatifs de l'immigration.
Et puis autre son de cloche, Brice, celui de Shada Islam, de Friends of Europe.
Oui, les gouvernants doivent au contraire, selon lui, attirer l'attention des peuples sur le fait que l'Europe manque de migrants pour des raisons économiques et que la diversité est une source de valeur sociétale bénéfique. Richard Giragosyan, du Regional Studies Center d'Arménie, témoigne de la puissance d'attraction que le modèle démocratique européen continue à exercer dans cette région du monde. L'imprévisibilité des États-Unis depuis que Trump y est devenu président démontre, par contraste, la solidité et la fiabilité des Européens. Par ailleurs, les Russes, dit-il, sont plus doués pour perdre des amis que pour s'en faire de nouveaux. Enfin, la démocratie demeure attractive, en témoigne la révolution de velours qui a eu lieu en Arménie au printemps 2018. Mais les idéaux démocratiques ne sont pas attaqués seulement de l'extérieur par des puissances non démocratiques qui redoutent l'influence de nos valeurs, la contagion de la démocratie. Ils le sont aussi de l'intérieur, à l'intérieur même de l'UE, par des régimes qui, tels ceux d'Orban en Hongrie ou du PiS polonais, ne les respectent pas complètement. Et Ian Bond fait observer que l'adhésion à l'Union européenne passe par le contrôle très strict des règles de droit, mais qu'une fois qu'un État est devenu membre de l'Union, eh ben il devient très difficile de le sanctionner lorsqu'il viole ces mêmes règles.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.